c'est parce que Radio Capuiné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous avons dans ce studio l'ingénieur Antoine Fangoy, voilà, chargé d'agronomie à l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA. Nous sommes à l'étape de l'entretien. Que faut-il notamment respecter à l'étape de l'entretien?
À l'étape de l'entretien, il faut d'abord commencer par ce que nous appelons les régarnissages, c'est-à-dire 2 semaines après la plantation, il faut passer pour voir si tout ce que vous aviez planté a repris. Si la reprise n'est pas bonne, vous devez mettre les boutures là où il n'y a pas eu reprise. Et d'ailleurs, nous conseillons que lors de la plantation, on puisse planter d'autres boutures en dehors du champ, nous appelons ça jauge, de sorte que lorsque vous allez revenir 2 semaines après pour les régarnissages, vous puissiez piver dans les jauges pour que les boutures, les plantes qui seront dans votre champ puissent avoir le même âge, qu'il n'y ait pas de différence, donc d'hétérogénéité due à la différence des actes de plantation. Ça, c'est la première opération d'entretien. La deuxième opération d'entretien intervient entre la deuxième semaine et la quatrième semaine, c'est l'écarclage. J'ai dit deuxième et quatrième parce que ça dépend du développement de la mauvaise herbe et ça dépend aussi de la façon dont on a préparé le terrain. Si le terrain avait été mieux préparé,
l'écarclage, vous parlez de le fait d'enlever
les mauvaises herbes. Bon, il y en a qui préfèrent appeler ça les adventices. Alors, dès que vous enlevez ça, entre deux et quatre semaines, en principe, vous pourrez revenir 2 ou 3 mois après pour certains, faire ce qu'on appelle les bitages. Ou alors, faire les sarclages, les sarclobitages. Donc, on fait les sarclages en même temps, on fait les bitages. Les bitages, c'est l'opération qui consiste à tasser un peu de terre autour de chaque plant de manioc. Et cela a certains avantages aussi. Et nous conseillons que la plantation se fasse à plat, parce que c'est lorsque la plantation est à plat que le rendement est meilleur. Mais il y a aussi des situations, des terrains qui nécessitent qu'on puisse planter sur vite ou sur billon, parce que lorsque c'est en pente et qu'on ne fait pas les vite ou les billons, on risque d'avoir les problèmes d'érosion.
Alors, qu'est-ce qui va se passer si on mène une activité champêtre, ou c'est-à-dire on veut faire la culture de manioc sur un terrain qui a été déjà mis en jachère?
C'est une bonne chose parce que, en fait, la jachère est conseillée. D'ailleurs, nous conseillons même qu'elle soit améliorée, c'est-à-dire au lieu de laisser le terrain seulement abandonné à lui-même, on peut mettre certaines plantes, les guinées, notamment les mukuna, pour améliorer. Oui, les mukuna, c'est une légumineuse dont on peut facilement trouver les semences, et on peut mettre ça, on abandonne le terrain, et le moment venu quand on va enlever les plantes, ça va enrichir le sol en azote. Et donc, la jachère doit intervenir normalement à la fin de ce que nous appelons la rotation. Donc, dans une zone écologique donnée, on peut commencer par les céréales, par exemple dans les zones forestières, ensuite les légumineuses, puis on termine par les maniocs et on laisse les terrains en jachère. Et dans la savane, on peut commencer par les légumineuses, on continue avec le maïs, et puis on termine en fin de rotation avec le manioc. Et après, on laisse le terrain en jachère. La jachère peut être de 2 ans, de 3 ans, D'une année, ça dépend des conditions d'acquisition des terrains et de beaucoup d'autres paramètres.
Alors, nous sommes dans la culture de manioc, et là, nous sommes dans une zone marécageuse. Est-ce que la culture est possible?
Non. S'il y a une chose que les maniocs n'aiment pas, c'est les zones inondées. Donc, j'avais dit au début que les maniocs, c'est...
Contrairement au riz.
Contrairement au riz irrigué.
Oui.
Contrairement au riz irrigué, les maniocs craignent les sols inondés. Parce que si vous mettez votre manioc dans un sol inondé, vous n'aurez que des pourritures. Donc, les racines qui brisent là seront pourries. Donc, il est vraiment conseillé d'éviter les zones marécagées dans les cas où vous avez ces inondations de façon périodique. On conseille même de faire des pions ou des bites pour essayer d'éviter de drainer l'eau, hein, pour que les racines ne puissent pas vraiment avoir cette humidité-là excessive.
Mais autour des zones montagneuses, par exemple, quand nous sommes à l'est, là où il y a pas mal de collines,
des post-pentes, là, nous conseillons de faire les billons. Et les billons, là, doivent avoir des orientations selon les degrés de la pente. Lorsque la pente est faible, nous conseillons que les billons puissent être perpendiculaires à la pente, lorsque la pente est faible. Par contre, lorsque la pente est forte, il faut que les billons soient parallèles à la pente.
Les billons, c'est-à-dire
on entasse la terre en laissant des sillons.
Donc là, nous sommes à la deuxième étape, hein, dans la préparation du sol.
Là, nous sommes dans la préparation
du terrain, donc il faut faire les billons. C'est-à-dire qu'il faut bien entasser le sol
dans la ligne. Et alors, il y en a qui font ça dans la deuxième étape, dans la préparation, mais il y en a aussi qui font ça dans la troisième étape, ou plutôt dans la quatrième étape.
On peut appeler ces billons-là des plates-bandes. Non.
Bon, plate-bande, il y en a. En fait, ils ne sont pas des plate-bandes. Parce que les plate-bandes, la largeur peut être de 1 mètre, 1 mètre et demi. Alors que les billons, la largeur atteint à peine 50 cm.
Mm-hmm.
Alors, je voulais dire que, en principe, le billonnage peut se faire soit pendant la préparation du terrain, soit encore pendant l'entretien. Donc, il y en a qui attendent, ils plantent à plat, et lorsqu'ils vont faire l'entretien, ils constituent maintenant les billons dans la ligne. Donc, ça dépend.
Mais par contre, les autres les font en amont.
Les autres les font en amont.
Voilà. Mais entre faire en amont et en aval, qu'est-ce que vous conseillez en tant que technicien, expert en matière?
En fait, il faut d'abord voir pourquoi on fait les billons. Lorsqu'on fait les billons, d'une façon générale, c'est pour lutter contre l'érosion, c'est pour lutter contre les mauvaises herbes, c'est pour essayer d'éviter aussi contre la sécheresse dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il est conseillé aussi de faire ça parce que ça accumule suffisamment d'eau. Et dans la logique des choses, le conseil dépend du milieu et des circonstances. L'essentiel, c'est de faire ça de sorte que le moment où les pluies vont venir, qu'il n'y ait pas l'érosion. Bien entendu, il y a des discussions entre les chercheurs. Il y en a qui trouvent que, dans tous les cas, même quand on fait les billons, il y a l'érosion, mais c'est minimisé. C'est ainsi qu'on donne des conseils, comme je le disais tantôt là, que quand la pente est forte, et il faut faire les billons parallèlement à la pente, mais il faut que ces billons soient cloisonnés pour essayer de limiter l'eau qui entre dans les sillons qui sont entre les billons.
Vous êtes nombreux qui aimez bien la culture du manioc. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos préoccupations par rapport à ce dont nous parlons avec notre invité, ingénieur Antoine Frangoy-Ngoy, chargé d'agronomie à l'Institut international d'agriculture tropicale ITEA, qui réfléchit ensemble avec nous autour des techniques de culture et d'entretien d'un champ de manioc. Donc, composez le 081 890 63 94 pour les appels.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la Terre. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, Inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19 heures, bienvenue dans Capissoir.
Sadiki, vous êtes à Congolo, au Katanga, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une préoccupation par rapport à, aux techniques de culture et d'entretien d'un champ de manioc.
Effectivement.
Oui, allez-y.
Oui, c'est juste savoir, parce que je suis à Congolo, je m'appelle Sadi, comme vous l'avez dit, Emmanuel. C'est juste savoir, parce que ici à Congolo, nous sommes en train de travailler les champs et nous avons l'habitude de faire les labos. Hein? Quelque part là, nous avons l'habitude de pocketer, après avoir pocketé, nous faisons la combinaison de manioc, maïs, voire même les petits pois. Et quel conseil voudriez-vous nous donner, parce que chez nous, nous avons même du mal pour avoir un bon rendement. Quel conseil voudriez-vous nous donner ici à Congolo pour qu'on ait un bon rendement?
Merci Sadiki. Michel Songa, vous êtes également à Congolo, Katanga. Bonjour Michel.
Oui, bonjour à l'Okapi. Bonjour à l'invité.
Bonjour. Allez-y Michel, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai seulement des petites questions à l'invité.
Oui, allez-y.
Quelles sont les conditions pour avoir une meilleure récolte du manioc? Et aussi, quelle est la position doit avoir une tige de manioc lors de la plantation?
Merci Michel. André Kadima, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, André.
J'ai trois préoccupations pour qu'il y ait quand même un rétrécissement par l'invité.
Oui, allez-y.
Je voulais un peu connaître s'il pouvait encore parler sur le pH et la culture de manioc qui s'adapte à, pour que, de quel pH alors. Alors, deuxièmement, il a parlé de la bourre à plat qui est celle qui donne un bon rendement.
Oui, vous parlez de pH, donc la potentialité donc, d'hydrogène.
Oui, d'accord. Le pH du sol, oui.
Ok, d'accord.
Deuxième préoccupation, c'est sur. Il vient de parler qu'il faut faire un labour à plat, c'est celui qui donne un bon rendement. Et dans quel sol? Parce que, du moins, pour les sols sablonnés, là où les sables dominent par rapport à l'argile, mais sur les sols argileux, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, deuxième et troisième préoccupation, quelle est la position normale pour l'aboutir au moment de bouturage? Comment on plante les manioc?
Merci André. Ingénieur Antoine, vous avez trois intervenants tout à l'heure, donc avec leurs préoccupations. Quelle est la réponse que vous leur réservez?
Merci aux intervenants pour vos questions très pertinentes. Je commencerai par la dernière question, parce qu'elle a été posée à des reprises notamment. La position normale pour la bouture, en fait, il y a trois positions pour la plantation. Il y a la position verticale. Cette position-là est conseillée lorsque vous êtes dans un sol léger. Là, nous conseillons de planter verticalement parce que ça évite l'averse. Et on conseille aussi cette position dans des régions à forte pluviométrie. Ça, c'est la première position. La deuxième position que nous conseillons, c'est la position horizontale. Cette position favorise plus la production des tiges. Et lorsque on plante horizontalement, cela fait qu'on aura aussi moins de racines, ça il faut le savoir. Et c'est une position qui est également conseillée dans des régions où il ne pleut pas fortement, mais où il ne pleut pas non plus de façon moindre, donc entre les deux. Et la dernière position que nous conseillons, c'est ce que nous appelons la position oblique. La position oblique, c'est une position qui facilite la récolte, tout simplement parce que lorsque on plante obliquement, il y a le faisceau des racines tubérées qui est vraiment très compact. Et ça permet une bonne récolte. Ça, c'est en ce qui concerne la position des boutures. Il y avait aussi un auditeur qui avait posé la question sur concernant le pH du sol. En fait, l'attitude du manioc évolue mieux dans le pH entre 6 et 7, donc autour du pH net. Et il y a également la question concernant les conditions pour avoir une meilleure récolte de manioc. En fait, ça c'est la synthèse de toutes les pratiques culturales que nous conseillons, toutes les bonnes pratiques culturales. C'est-à-dire, en commençant, comme je le disais au début, par les choix du terrain, on doit faire le choix d'un bon terrain. Lorsque vous n'avez pas la possibilité de choisir le terrain qui répond aux conditions des sols, comme nous l'avons dit au début, il y a néanmoins la possibilité d'améliorer le sol. Donc, supposons que vous êtes dans un sol sablonné et il n'y a pas la possibilité d'aller dans un sol sablo-argileux, il y a la possibilité d'enrichir le sol, notamment par l'apport des fumiers, donc en tant qu'engrais vert, ou les fumiers minérales, les fumiers animales plutôt, ou encore en fertilisant avec l'engrais chimique. Il y a également l'association avec des légumineuses qui peuvent enrichir le sol parce que les légumineuses peuvent apporter l'azote atmosphérique du sol. Concernant l'auditeur de Congolo qui a parlé
ils n'ont pas l'habitude de
faire les labos. Effectivement, il y a des sols qui ne nécessitent pas des labos parce qu'il y a déjà eu des expériences que nous avons faites sur les labos et les non-labos, sur certains types de sols. Et nous avons remarqué que lorsque dans certains types de sols, les labos n'est pas nécessaire, il suffit seulement de respecter les pratiques culturales qui sont conseillées et vous pourrez avoir de bons résultats par rapport à celui qui a aussi fait les labos. Et il a aussi dit qu'ils font des associations. Les associations de culture sont conseillées avec le manioc tout simplement parce que ça apporte ce que nous appelons une valeur ajoutée. Et ces associations permettent aussi à la culture du manioc d'être enrichie, notamment lorsqu'on associe avec les légumineuses. On suppose même, des expériences ont été menées, on a remarqué que les légumineuses, le manioc profite l'azote atmosphérique que les légumineuses captent. Parce que lorsqu'on plante une légumineuse avec le manioc, on récolte la légumineuse, le manioc reste pendant longtemps sur le terrain, il va profiter de cette légumineuse-là. Et aussi, ça réduit le sarclage. Donc, en fait, les associations sont conseillées, mais les associations les plus conseillées, c'est lorsque c'est fait entre le manioc et une légumineuse.
Nous avons Clovis à Kissan Lagui, on va terminer avec cet auditeur. Clovis, bonjour.
Bonjour, c'est Clovis, bonjour.
Clovis, vous appelez d'Excellali, alors quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, ma préoccupation est celle-ci. Je vais demander à l'invité, est-ce que nous avons combien de sortes de manioc? Et si ça y est beaucoup, est-ce que toutes les sortes dépendent de la saison de pluie? Bien, ça fait avoir combien? C'est ce que je voulais vous poser comme question.
Merci Clovis. Ingénieur Antoine.
Bon, je dirais que on a le manioc amer et le manioc doux. En fait, il y a plusieurs variétés de manioc. Et parmi ces variétés, il y en a qui sont amères et il y en a qui sont douces. Donc, si je veux parler des sortes de manioc dans ce sens-là, donc nous considérons les manioc amers, les manioc qui ont un certain seuil d'acide cyanidique. Et lorsque ce seuil n'est pas atteint, ces manioc est considéré doux et on peut facilement les vérifier par en goûtant. Le manioc est pris, vous pouvez sentir si c'est amer ou si c'est doux. Mais, que ce soit amer, que ce soit doux, il y a plusieurs variétés de manioc qui existent, notamment la variété Zizila, la variété Infancy, la variété Lissanka, la variété TME, qui a été baptisée variété Obama,
la liste n'est pas exhaustive. Voilà, ingénieur Antoine Frango Ingoy, chargé d'agronomie à l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA-ANSIG. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci, c'est à moi de vous remercier.